4, 5, 6, 7, 8, 9.
Are we on the air?
Oh, salut les PD!
Salut!
Ich bin keine Schokolade! Ich will lieber einen Mann! Ich will einen, der mich küssen und um den Finger wickeln kann!
SLP, salut les PD, émission d'avril.
Ne te découvre pas d'un fil,
oui,
ne
parfait.
Te déconfine pas d'un fil plutôt.
Ouais, bah là c'est sûr que jusqu'à fin avril, je pense que voilà, ça va être le mot d'ordre.
Ne te déconfine pas d'un fil.
C'est ça. Le proverbe réinventé. Salut Ghislain, ça va ?
Ouais, bah ouais, ça va et toi ?
Ouais, bah écoute, ouais, ça va, toujours...
Toujours en cuisine.
Toujours en cuisine.
Heureusement qu'on habite à moins de 10 km l'un de l'autre.
Hein. C'est vrai, hein. Heureusement. Mm. Bon, sinon, on aurait fait quoi ?
Bon, on aurait fait une rebelle.
Comment c'est bien faire.
Ouais, et puis surtout, là, c'est quand même hyper sécure comme rébellion. Ça
c'est
va,
sûr.
Quoi. C'est pas non plus...
C'est sûr. Thème du mois, je te laisse l'annoncer.
On va parler féminisme, femmes, etc.
Voilà, etc. On va l'aborder sous différents angles. Et bah, je prends la main pour la première émission.
Vas-y, prends la main.
Parce qu'il y a un débat qui m'intéresse beaucoup, moi, mais je suis pas le seul, j'imagine. En ce moment, c'est très d'actualité. C'est la guerre assez médiatisée entre les féministes universalistes et les féministes intersectionnelles. Alors, j'emploie le mot de guerre à dessein, mais on va essayer de décrypter un petit peu ça, parce que je ne suis pas sûr qu'au final, même si il y a une... Quand je parle de guerre, c'est très médiatisé et mis en scène, notamment sur le champ médiatique, à la télévision et ailleurs, mais au final, voilà, j'avais envie qu'on décrypte un petit peu ça et qu'on comprenne s'il y a véritablement des oppositions, si c'est le cas, quelles sont-elles, et au final, est-ce qu'il n'y a pas des réconciliations possibles ?
Bah écoute, j'attends de voir pour me prononcer.
Ok. Premier son, donc, pour lancer le sujet, ça remonte à un an. Donc, tu sais, à l'issue des César 2019, qui ont récompensé, entre autres...
Deux ans, alors ?
2019,
on est en 2021.
Fait... Oui, alors.
Alors c'est comme si 2020 ça existait
en
pas.
En fait, c'était les
raison.
César 2020, mais sur les films de 2019, tu sais. C'était il y a un an, à
ouais.
peu près. Et donc, les récompenses autour de Roman Polanski qui ont fait polémique. La sortie flamboyante d'Adèle Haenel. Et là, ce que je te propose d'écouter, c'est les réactions autour de cette cérémonie de deux protagonistes féministes. À savoir Caroline Fourest et Rokhaya Diallo, qui se voilà une interview croisée sur ce sujet-là. On les écoute et puis on en reparle après.
Ah ouais.
Mon féminisme, comme mon antiracisme, il est universaliste. Ce que je reproche aux féministes qui se disent universalistes, c'est leur arrogance. J'accuse la complicité du cinéma français et d'une certaine élite avec un homme qui a choisi de se soustraire à la justice en 1978. J'ai pas envie de réduire l'intention de ce vote parce qu'il a sans doute plusieurs visages. Il a d'abord le visage des techniciens du cinéma qui récompensent un réalisateur avec lequel il tourne depuis presque 30 ans. C'est avant tout ça, Roman Polanski, ça fait 6 fois qu'il le gagne, ce César. pour moi, ce César, c'est simplement l'expression du patriarcat et des formes de solidarité qui le nourrissent et qui l'ont toujours nourri. Il a eu la possibilité de faire son travail d'artiste, tout simplement parce qu'il a bénéficié d'une forme d'impunité. Donc pour moi, c'est cette manière dont des solidarités se jouent pour permettre aux puissants de se déjouer de la justice. Si Roman Polanski avait été l'épicier du coin, personne n'aurait considéré que l'épicier, le centre commercial de l'épicier, puisse justifier le fait qu'il ne mérite pas de faire face à la justice pour des actes qu'il a commis.
Je pense sincèrement qu'en plus, Roman Polanski ne méritait pas forcément le César du meilleur réalisateur cette année-là, et que donc vouloir à tout prix lui donner, même après Me Too et malgré la polémique, on ne peut pas dire que ça n'est qu'artistique comme signal. C'est vraiment un geste très fort d'avoir voulu l'ignorer, ce contexte-là. Le discours d'Aïssa Maga qui vient parler à la salle des Césars comme si elle était face au plus grand raciste de France, alors qu'on est devant une salle qui, depuis 10 ans, célèbre la diversité, récompense chaque année les talents issus de la diversité, et cette année encore. Du coup, son discours était hors contexte, décalé, à côté, et en plus, il était particulièrement agressif inutilement. Là, je ne comprends pas où est-ce que ça nous mène, à part un résultat complètement contre-performant qui commence par compter les Noirs dans une salle et qui finit par Nadine Morano qui lui dit d'aller compter les Noirs en Afrique.
Certaines femmes ne sont pas seulement des femmes. Il y a des femmes qui sont en situation de handicap, des femmes qui sont pauvres, des femmes qui sont LGBTQIA, des femmes qui sont noires, arabes, asiatiques ou musulmanes. Donc elles vont être victimes de sexisme, mais aussi de racisme, de validisme, donc de discrimination contre les handicapés, de transphobie, d'homophobie, etc. Et que donc, on ne peut pas saisir le féminisme sans tenir compte de ces autres oppressions. Et qu'il faut avoir un regard ouvert qui permette de considérer la complexité des oppressions, leur interaction et les conséquences sur les femmes qui ne sont pas des femmes blanches et bourgeoises.
Mon féminisme, comme mon antiracisme, il est universaliste. Je pense qu'on doit pouvoir faire avancer l'égalité sans assigner, sans se victimiser et surtout en ayant la générosité de se dire qu'on peut convaincre ceux qui ont encore des préjugés.
Ce que je reproche en fait aux féministes qui se disent universalistes, c'est leur arrogance. Je ne sais pas comment une poignée de femmes françaises peuvent considérer qu'elles incarnent l'universel, contrairement à d'autres femmes. Ce que l'on peut reprocher aussi aux féministes qui se disent universalistes, c'est parfois de penser pour les autres femmes, d'une certaine manière de distribuer des bons et des mauvais points.
Ce que je reproche à l'antiracisme et à l'antisexisme identitaire, c'est en fait de valider des catégories qui vont favoriser la droite identitaire, parce qu'en fait elles ne remettent pas en cause les stéréotypes, les préjugés, et en plus je trouve qu'elles infantilisent nos causes, c'est-à-dire qu'elles nous mettent dans un statut de victime dont on n'arrive pas à sortir, et surtout je pense qu'elles n'ont pas la générosité, encore une fois, de convaincre. Il s'agit juste de se plaindre et de réclamer des places au nom de son statut de victime, mais à la fin du fin ça ne fait pas reculer les préjugés, et j'ai même l'impression parfois que ça les renforce.
Réaction, Ghislain ?
Ouais, c'est toujours intéressant d'écouter les deux parties.
Ouais.
Moi, à chaque fois que j'écoute Caroline Fourès, quand même, je suis assez ébahi par cette nana.
Ouais.
Je trouve que à chaque fois qu'elle prend la parole, elle va loin, elle va chercher derrière, en fait, toujours, et elle enlève les couches pour aller vraiment jusqu'au plus profond de ce qui est ses valeurs et de ce qu'elle défend, etc. Et je trouve ça super intéressant. Elle ne s'arrête pas juste à une certaine superficialité.
Alors, en fait, moi, Caroline Fourès, j'ai le... jusqu'à ce débat, en fait, j'ai le même ressenti que toi. Et là, parce que j'ai voulu creuser un peu la question de l'intersectionnalité, sans être en désaccord, j'ai l'impression qu'il y a des choses sur, encore une fois, le féminisme intersectionnel qu'elle évacue, même si je comprends très bien les risques qu'elle pointe à la fin de ce qu'elle dit là.
Oui, c'est ça qui est intéressant.
Oui, tout à fait.
C'est-à-dire, ça a quand même certains risques. L'universalisme aussi a certains risques.
Oui, oui. Ouais, ouais.
Tu vois ?
Ouais.
Et que... c'est vrai que peut-être en mélangeant un petit peu des deux, on arriverait à faire quelque chose de vachement bien.
Alors, je ne sais pas si on va réussir, tu vois, à la fin de cette émission, à réconcilier Caroline et Rocaïa, ou même, on va dire, Lambert Wilson et Adèle Haenel. Mais je voulais qu'on creuse un peu, justement, finalement, parce qu'on en entend beaucoup parler de l'intersectionnalité, mais finalement... Qu'est-ce que c'est réellement, d'où ça vient
ouais.
Et du coup, j'ai pas mal exploré. Et je te propose qu'on écoute un son d'une chercheuse française qui est maîtresse de conférence, qui s'appelle Jules Falquet. Et en 7 ou 8 minutes, elle fait une sorte d'historique de ce concept. On écoute et on en redébat après.
Ok.
Ça fait à peu près un petit peu plus de 30 ans que je travaille sur les questions d'imbrication des rapports sociaux, notamment de sexe et de race et de classe, et l'intersectionnalité, ou bien l'imbrication des rapports sociaux, ou bien la coformation des rapports sociaux, ou bien encore la consubstantialité des rapports sociaux. Tout ça, c'est des expressions un petit peu différentes, mais pour désigner finalement quelque chose qui va dans le même sens et qui est une manière de comprendre l'organisation sociale. Et c'est une manière de comprendre l'organisation sociale comme résultant de plusieurs mécanismes d'oppression simultanés et qui ont la même importance. Le premier groupe qui a écrit noir sur blanc vraiment là-dessus, c'est un groupe qui s'appelle le Combahee River Collective, qui en 79 a publié une déclaration féministe noire dans laquelle elles expliquent comment elles en sont arrivées. Elles militaient à la fois dans le mouvement noir, dans le mouvement des femmes, dans des organisations de gauche notamment, et dans aucune de ces organisations, elles se sentaient vraiment pleinement représentées. Et puis, individuellement, elles avaient, c'était vraiment très dur, elles se sentaient parfois devenir complètement folles, et voilà, c'était très difficile. Face à ça, elles se sont organisées dans un groupe spécifique, le Combahee River Collective. Elles ont réfléchi sur leur situation et elles sont arrivées à la conclusion qu'en fait, leur situation, elle était le résultat donc, de quatre systèmes d'oppression. Elles ont appelé ça des systèmes d'oppression imbriqués. Le système raciste, le système patriarcal, le système capitaliste et l'hétérosexualité. Donc ça, c'est vraiment une première formulation qui date de 79, suite à laquelle, bien longtemps après, disons, la juriste féministe noire états-unienne Kimberlé Crenshaw a proposé un terme un petit peu différent qui est celui de l'intersectionnalité. Elle, dans un autre contexte, donc, elle travaille notamment avec des syndicalistes de l'automobile qui sont des femmes noires. Et ces femmes noires, elles ont une difficulté parce que, en réalité, elles tombent dans une espèce de vide conceptuel quand elles veulent, par exemple, se présenter aux élections syndicales, parce que le syndicat considère que pour représenter des Noirs, eh ben, il faut des hommes, pour représenter des femmes, il faut des blanches. Et elles qui sont des femmes noires, elles tombent dans une espèce de zone impensée. Donc, c'est une autre manière de poser les choses. Ça, c'est la perspective de Crenshaw sur intersectionnalité. Un élément important et vraiment fondamental même de la réflexion en particulier du Combahee et aussi de Crenshaw et de beaucoup d'autres, c'est qu'en réalité, donc, bien sûr, c'est une question qui est portée en premier lieu par des femmes racisées de classe populaire. Et c'est très important de bien comprendre que c'est quelque chose qui sert à la lutte pour la justice sociale. Donc c'est très différent d'une approche cumulative, c'est très différent d'une approche « on va d'abord régler un problème et ensuite on va en régler un autre et puis voilà, ça s'arrangera ». Pour elles, elles disent « pas du tout, c'est pas comme ça que ça marche, c'est impossible et si on fait ça, c'est même si on règle les trucs un par un, ça peut même être contre-productif. Parce que ce qu'on va gagner sur le plan de la race, on va le perdre peut-être sur le plan de la classe et inversement ». Donc il faut vraiment cette idée de simultanéité et de non-hiérarchisation des oppressions, c'est très important, c'est un trait caractéristique de cette démarche. Depuis le début, elles ont participé au mouvement noir, au mouvement féministe, dans les groupes de gauche. Depuis le début, elles ont posé des choses, elles ont eu des exigences, et en réalité, donc, la question, c'est à un moment donné, elles s'organisent de manière spécifique, on pourrait dire elles s'autonomisent. Elles font des réunions non mixtes sur le plan de la race, du sexe, de la classe. Et elles sont tout à fait légitimes à le faire. Et c'est en faisant cela qu'elles ont enfin la possibilité de vraiment aller à fond dans les discussions qui les intéressent. Mais en même temps, elles font ça pour mieux pouvoir poser leur position et dans le but de pouvoir continuer à militer dans les autres mouvements et continuer à faire des alliances. Mais à faire des alliances sur des bases qu'elles ont pu définir de manière plus précise dans les moments où elles se sont retrouvées entre elles dans des non-mixités choisies. Donc c'est vraiment très très important de voir qu'elles font à la fois un mouvement d'organisation autonome et un mouvement de recherche d'alliance. Et ça, je pense que ça explique aussi pourquoi, bien sûr, il faut se méfier de ce que Sirma Bilge a appelé le blanchiment de l'intersectionnalité, par exemple, qui est le fait que c'est un terme qui est récupéré par toutes sortes de gens, à la fois des personnes blanches ou non racisées, par des personnes, des universitaires, par les institutions internationales, les gouvernements. C'est repris et quelquefois complètement vidé de son sens. En réalité, ce que, par exemple, Crenshaw ou bien les femmes du Kumaï posent, c'est que, encore une fois, ce sont des luttes qui concernent tout le monde, à des places différentes, et elles ont besoin que les différents groupes prennent conscience, groupes au sens groupes sociaux, prennent conscience de leur position et de leur responsabilité dans le fonctionnement de ces rapports sociaux. Donc, en fait, penser en termes, réfléchir, analyser en termes intersectionnels ou d'imbrication des rapports sociaux, c'est une tâche qui concerne tout le monde, pour pouvoir faire des alliances sur des objectifs politiques de destruction à la fois de l'oppression raciste, de l'oppression classiste et de l'oppression sexiste. Voilà, donc je pense que c'est vraiment, au-delà des incompréhensions, des tentatives parfois importante de récupération de ce terme, c'est important qu'on arrive à s'en emparer, mais en comprenant que c'est l'objectif de cette réflexion, c'est un objectif de lutte, de justice sociale, de transformation.
Est-ce que c'était un peu éclairant ?
Oui et non.
Vas-y, dis-moi tout.
Oui et non, c'est-à-dire je ne sais pas quoi en penser en fait. Je trouve ça super intéressant, mais vraiment, je trouve ça vraiment super intéressant parce que ça vient mettre plein de nuances, parce qu'il y a une idée de convergence des luttes, on va dire, qui est super intéressant parce que c'est hyper inclusif, c'est-à-dire on prend vraiment en compte ce que sont les personnes et leurs différents degrés d'oppression. Après ce que c'est devenu aujourd'hui, ce pourquoi on en parle. Ça me plaît moyen.
Mais je suis d'accord avec toi, mais c'est pour ça que je voulais un peu qu'on comprenne d'où ça vient, parce que elle l'évoque un petit peu dans le son qu'on vient d'entendre. C'est-à-dire que je pense que c'est un concept qui a été un peu dévoyé et aujourd'hui qui peut être presque contre-productif, parce que moi, enfin, si je le comprends bien, c'est au départ un outil de décryptage, d'analyse à visée d'émancipation.
Oui.
Donc c'est exactement le contraire qu'à un moment d'être statufié dans une posture de victime, quoi.
Exactement.
C'est simplement au contraire effectivement décrypter les mécanismes qui sont à l'œuvre pour tenter de sinon de les détruire, du moins de les faire évoluer. Donc aujourd'hui, quand on entend le terme d'intersectionnalité et ce qu'évoquait notamment Caroline Fourest dans le premier son, ce qu'elle craignait, c'était cette posture victimaire de ces féministes qui se revendiquent de
c'est
l'intersectionnalité.
Ça. Il y a non seulement le côté victimaire qui, moi, me dérange beaucoup, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on est victime de quelque chose, c'est pas parce qu'on est noir qu'on est victime de quelque chose.
Par contre, qu'il y ait des mécanismes de soumission à l'œuvre.
Ah oui, non, mais ça c'est clair, des mécanismes d'oppression, ça, il y a aucun problème, ils y sont réellement. Mais on n'est pas la victime de, on est la cible de. C'est ce qu'on a toujours dit à SLP, on est toujours la cible de quelque chose, on n'est pas la victime, c'est pas le même statut. Et il y a ce côté-là, victimaire, victimisation, infantilisation, du coup, parce qu'il faut les protéger, enfin tu vois, il y a un côté très paternaliste,
tout à fait,
ou maternaliste, mais en tout cas, il y a un côté, moi, qui me dérange. Et puis, il y a un côté identitaire aussi, qui dérive actuellement. Un côté hyper communautaire, identitaire, et qui, moi, me dérange énormément.
Alors, qui dérive actuellement.
Tout parce à fait. Que d'après ce qu'on a entendu, c'est pas ça.
Exactement, mais c'est presque même le contraire, du coup. C'est là où, pour moi, fondamentalement, par rapport à ce qui a été évoqué dans ce son de Jules Falquet, si on revient à la source de tout ça, il ne devrait même pas y avoir d'opposition entre le féminisme universaliste et le féminisme intersectionnel tel qu'il est évoqué au tout départ. Quoi. Je pense que c'est des choses qui peuvent se rejoindre. Mm-hmm. Je te propose qu'on fasse une pause musicale et après je te ferai écouter un autre son qui justement décrypte peut-être... Enfin, il est intéressant à écouter pour voir un petit peu d'où viennent les polémiques actuelles autour de ces oppositions.
Allez.
Yesterday, you broke my heart. Before I was your lover. But today, I'm a foreigner. Yeah, yeah, I remember. It was together. Like a lover in the night, I looking back. And I don't know why. Now, I'm a foreigner. But I'm a believer, moving around. Like a wanderer. Between the shadow in the night, I don't looking back. Oh, I'm sorry. Baby, I give in to your radio silence. Cause I'm a lover, baby. That's why I'm going up and down. I got a ticket for the love roller coaster. And now I'm falling down. You fuck this guy without a condom, a DJ or whatever. And I'm sick of that. I got him moving around like a foreigner.
Que la femme.
Ah, tu es en train de t'envoyer un son en plus. Là. C'est les aléas du direct.
Ouais, c'est ça. ça d'ailleurs, c'était un autre son que j'aurais pu choisir pour.
On choisira pour une
cette émission. Ouais. Bah, ça part d'intersectionnalité. C'est un mec qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Politicon. Et il y a un son sur l'intersectionnalité, c'est la capsule numéro 14 que je conseille.
Aussi. D'accord, ok. Et voilà. Ce qu'on vient d'écouter, là, c'était
la
quoi
femme.
C'était, ah bah oui, forcément.
Et forcément.
Et c'était Foreigner. Vachement bien. Hein.
Ah oui, c'était vachement bien. Et ouais. Tout l'album est top. Donc, il vient de sortir, conseillé fortement et sans modération. Dernier son pour cette émission.
Ouais.
Histoire de réconcilier tout le monde. Enfin, c'est une
donc
petite
toujours
tentative.
Toujours sur l'intersectionnalité.
Ouais, tout à fait. Chaîne YouTube qui s'appelle Hémiplégique. C'est un mec qui travaille sur qu'est-ce que c'est que la gauche aujourd'hui.
Ouais.
Et c'est assez intéressant ce que je vais proposer à l'écoute. Et finalement, même si ça vulgarise un peu à la fois le féminisme universaliste et le féminisme intersectionnel, quelque part, ça tente une sorte de réconciliation des deux que je trouve intéressante. On écoute et puis on en reparle après pour conclure.
Allez.
C'est déjà la 10e émission de ma chaîne et on va fêter ça dans le sang. Je fais une pause sur les sujets consensuels historiques. Place à la boucherie, au carnage, à la guerre sale. Aujourd'hui, on parle d'universalisme et d'intersectionnalité.
La gauche, la gauche, la gauche,
de gauche,
de gauche,
la 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 gauche.
Bienvenue sur Hémiplégique, la chaîne qui essaie de comprendre ce qu'est la gauche. Dans cette vidéo, je vais parler de l'un des débats les plus violents qui déchire la gauche actuellement, la bataille entre universalisme et intersectionnalité. De quoi s'agit-il ? L'universalisme, j'en parlais rapidement à la fin de ma vidéo sur la gauche et les Lumières. Pour résumer, c'est un courant de pensée qui considère que les êtres humains ont les mêmes droits indépendamment de leur sexe, de leur religion, de leur couleur de peau, de leur handicap ou non, ou encore de la taille de leur compte en banque. Le document universaliste par excellence, c'est, vous l'aurez compris, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Il s'agit donc d'un principe fondamentalement de gauche, puisqu'il met l'égalité entre les êtres humains au cœur du sujet. L'intersectionnalisme, que l'on désigne plus souvent par une sorte de franglais sous le nom d'intersectionnalité, c'est une notion beaucoup plus récente. Elle a été utilisée pour la première fois par l'américaine Kimberlé Crenshaw aux États-Unis en 1989. Soit exactement 200 ans après la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Coïncidence ? Je ne crois pas. L'intersectionnalité, c'est considérer que le cumul de plusieurs oppressions, et donc leur intersection, crée lui-même une nouvelle forme d'oppression. Concrètement, je vais reprendre un des exemples de Kimberlé Crenshaw herself. Dans une entreprise américaine, en raison d'une politique de recrutement raciste, les personnes noires étaient embauchées uniquement sur des postes très peu qualifiés, très manuels, très physiques et très mal payés. Dans cette même entreprise, en raison d'une politique de recrutement sexiste, les femmes étaient embauchées sur des postes de secrétaire uniquement. Les femmes noires subissaient les deux formes de discrimination, racisme et sexisme. Elles ne pouvaient pas être recrutées sur les postes réservés aux personnes noires, parce qu'elles étaient des femmes, ni être recrutées sur les postes réservés aux femmes, parce qu'elles étaient noires. Lorsque ces femmes ont attaqué l'entreprise pour discrimination, leur plainte a pourtant été classée sans suite. Eh oui, l'entreprise n'était pas raciste, puisqu'elle embauchait des hommes noirs. Et elle n'était pas sexiste, puisqu'elle embauchait des femmes. Oui, c'est dégueulasse. Donc, l'intersectionnalisme, ça permet une réflexion sur notre société qui est tout à fait compatible avec les idées de gauche aussi, puisque l'on parle de l'oppression exercée à l'encontre de certaines parties de la population. Pourquoi cette guerre entre universalisme et intersectionnalité alors ? Comme souvent, le problème n'est pas sur le fond des sujets, mais dans la manière dont ils sont caricaturés. L'universalisme, comme l'intersectionnalisme, sont en effet tous les deux repris et détournés par deux courants pas vraiment de gauche. Les racistes d'un côté et les communautaristes de l'autre. Ce qui est amusant, c'est que c'est une nouvelle illustration du fait que la droite, pour justifier ses idéologies, convoque à nouveau des principes de gauche. Comme quoi, la droite n'est pas encore tout à fait décomplexée, contrairement à ce que j'indiquais dans une vidéo précédente. La meilleure illustration de ces récupérations, c'est sans doute le sujet qui donne lieu au plus de caricatures dans le débat politique français, le port du voile. J'avais prévenu que je parlerais de sujets sanglants. Les racistes convoquent ainsi un féminisme qu'ils disent « universaliste » pour s'attaquer aux musulmans. Ils disent qu'aucune femme, quelle que soit sa religion, ne doit subir l'oppression masculine, ce qui est vrai, et que le voile étant une manifestation de cette oppression, on devrait l'interdire dans l'espace public, ce qui revient finalement à interdire aux femmes musulmanes le droit de sortir de chez elles. Vous l'aurez compris, leur féminisme n'est fondamentalement pas universaliste dans les faits, puisque toutes les femmes, et donc tous les êtres humains, n'auraient pas les mêmes droits. À l'opposé, les communautaristes y voient l'occasion de s'attaquer aux fondements de notre République, qui, je le rappelle, est une et indivisible. Ils avancent dans le cas du voile que les femmes musulmanes, subissant une oppression spécifique, ce qui est vrai, on doit les considérer comme un groupe homogène, une communauté, pour lequel il faut établir des règles spécifiques. Ce qui remet complètement en cause l'égalité devant la loi de tous les citoyens, mais également en dictant des règles qui distinguent les appartenances religieuses, ce qui s'attaque au principe de laïcité. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Je ne dis pas que tous les universalistes sont racistes et que tous les intersectionnels sont communautaristes. Je dis simplement que les racistes récupèrent et détournent l'universalisme et que les communautaristes récupèrent et détournent l'intersectionnalisme, ce qui est fondamentalement différent. En raison de ces deux caricatures, les débats deviennent vite très violents, parce qu'il est très facile d'accuser les universalistes d'être des racistes, alors que c'est fondamentalement faux. Tout comme il est très facile d'accuser les intersectionnels d'être des communautaristes, ce qui est également fondamentalement faux. Comment on s'en sort alors? La solution, pour sortir de ce débat, mais surtout, et c'est plus important, pour défendre les droits des personnes souffrant de différentes oppressions dans notre société, c'est sans doute non pas de se dire universaliste ou intersectionnel, mais voir comment les deux concepts interagissent et comment ils peuvent ensemble faire progresser notre société vers plus d'égalité. Selon moi, l'intersectionnalisme est la bonne méthode d'analyse du problème, et l'universalisme est la bonne méthode de conception de la solution. Qu'une personne cumulant des oppressions, comme une femme noire ou un homosexuel des classes populaires par exemple, subisse des discriminations qui lui sont spécifiques, c'est une certitude, et la lecture intersectionnelle permet de les identifier et de les expliciter. Cette lecture n'est finalement qu'une validation du combat universaliste. Tous les êtres humains doivent être égaux, sans distinction de sexe, d'orientation sexuelle, de couleur de peau, de religion, de classe sociale, etc. Et c'est en menant ce combat, pour qu'il devienne une réalité dans les faits, et non uniquement une phrase posée dans une déclaration, que l'on arrivera à faire avancer la cause de chacun. L'universalisme ne dit pas qu'il ne faut s'atteler qu'à la défense des femmes, ou qu'à la défense des personnes de couleur, ou qu'à la lutte des classes, ce qui ne résoudrait pas les problèmes soulevés par l'intersectionnalisme. L'universalisme dit que tous ces combats doivent se mener en parallèle, et que nous ne devons avoir de repos que lorsqu'ils auront tous été remportés. En gros, c'est pas pour demain. Faire de l'intersectionnalisme la grille de lecture du problème, et de l'universalisme, celle de la solution, permet donc d'allier les deux concepts et d'avancer sur le long chemin de l'émancipation de l'humanité. A l'inverse, vouloir faire de l'universalisme la grille de lecture du problème pousse à nier des oppressions qui existent, tandis que vouloir faire de l'intersectionnalisme la solution pousse au communautarisme. Et donc à la baston de gens qui, fondamentalement, devraient être d'accord. Je n'ai bien évidemment pas fait le tour du sujet, il serait intéressant de parler de la problématique de hiérarchisation des luttes notamment, ou encore d'approfondir la notion d'universalisme républicain, sans parler du sujet hautement inflammable de la laïcité que j'effleure dans l'exemple du voile, mais j'espère vous avoir donné quelques éléments de réflexion sur ce sujet hautement polémique de l'universalisme contre l'intersectionnalité. Alors, suis-je un islamo-gauchiste intersectionnel anti-lumière? Ou bien un homme cis blanc universaliste privilégié qui parle de ce qu'il ne connaît pas? Lâchez-vous en commentaire.
Et ben voilà, là c'est vachement plus clair.
Ouais, ben voilà, il fallait qu'on en arrive là.
Tout ça pour arriver à la fin.
Ouais, pour tout te dire, j'ai vu et écouté pas mal de trucs autour de cette thématique et je suis tombé hier soir. Pratiquement au dernier moment sur sa chaîne et ce son en particulier, et je me suis dit qu'en fait c'était une synthèse qui vaut ce qu'elle vaut, mais que je trouve assez intéressante en tous les cas, qui moi me permet de décrypter, et je suis assez en phase finalement avec ce qu'il décrypte là, quoi, et la façon dont le phénomène est récupéré, dévoyé et rendu absolument confus et chaotique aujourd'hui dans l'espace médiatique, quoi, alors ouais, que finalement contrairement à ce qu'on nous donne en pâture, voilà, ça s'oppose pas forcément. C'est des visions complémentaires et je trouve assez pertinent ce qu'il dit à la fin, quoi.
Ouais, c'est clair. Bon, en gros, il nous dit que c'est des extrêmes qui font chier, quoi.
c'est ça.
Voilà, c'est ça. Mais la solution qu'il propose est vachement intéressante.
Oui, tout à fait. Alors, je sais pas effectivement si l'intersectionnalité est le bon outil, mais en tous les cas, c'est...
C'est un outil qui est vachement intéressant.
C'est un outil qui est super intéressant, c'est peut-être pas le seul,
mais c'en est un. De décryptage de ce qui se passe, c'est vachement intéressant.
Ouais. Et après, sur la visée de l'universalisme, bien évidemment que c'est ce vers quoi il faut tendre, mais justement pour y parvenir, peut-être que le concept d'intersectionnalité est un des outils pertinents pour analyser et être dans des luttes d'émancipation.
Exactement.
On s'en tient là ?
Bah, c'est déjà pas mal.
Ouais, c'est clair. On se retrouve la semaine prochaine.
Ok.
Salut.
Ciao.